Bonjour, vous êtes bien sur RFI. Il est 4h du matin à Paris, 22h à Washington.
Théo Renaudon.
À la une de l'actualité, il a attendu la fermeture de la bourse américaine pour faire ses annonces. Donald Trump lance concrètement sa guerre économique, taxes supplémentaires pour tous les pays du monde, dont des pays africains. Le président américain parle du jour le plus important de l'histoire des États-Unis. Le monde du libre-échange est menacé. Des milliers de manifestants dans les rues de Port-au-Prince en Haïti. Les habitants manifestent contre l'insécurité et l'impuissance de l'État. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Niger et du Mali à Moscou, ils sont invités par le gouvernement pour une visite de 3 jours en Russie. Tableau chiffré à la main devant une foule de soutien, drapeau américain géant en toile de fond, Donald Trump a déclaré officiellement sa guerre économique promise. Plus de nouvelles taxes douanières sur tous les produits étrangers importés aux États-Unis, Asie, Europe, Afrique. Personne n'y échappe, le monde entier est touché. Le président américain espère ainsi remodeler le commerce mondial au profit de son pays. À Washington, Guillaume Nodin.
Il l'annonçait depuis des semaines, il l'a fait pour Donald Trump, ce qu'il appelle le jour de la libération et l'une des journées les plus importantes de toute l'histoire des États-Unis.
C'est notre déclaration d'indépendance économique. Depuis des années, les citoyens américains qui travaillent dur étaient laissés de côté, alors que d'autres nations devenaient riches et puissantes, et ce, largement à nos dépens. Mais c'est maintenant à notre tour de prospérer et ainsi d'utiliser des milliards et des milliards de dollars pour réduire nos impôts et notre dette publique. Et cela va arriver très vite.
Et Donald Trump de brandir un tableau qui détaille les droits de douane qu'il impose sur les produits de toute une liste de pays. C'est 10% minimum et parfois plus en fonction des barrières douanières imposées par ces pays, sans que personne ne comprenne vraiment comment tout cela est calculé. 34% pour la Chine, 26% pour l'Inde, 20% pour les pays de l'Union européenne, 21% pour la Côte d'Ivoire et même 50% pour le Lesotho. Dans cette liste, on note les absences du Mexique et du Canada, particulièrement visées ces dernières semaines, mais aussi celles de la Russie. Enfin, à ceux qui voudraient négocier, Donald Trump conseille de commencer par faire baisser leurs propres barrières douanières. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Les réactions commencent à émerger après ces annonces. L'industrie automobile allemande est très inquiète. Une fédération dénonce une stratégie qui ne fera que des perdants, sentiment partagé par la Fédération du vin et des spiritueux en France. La bourse de Tokyo a, elle, dégringolé de plus de 3%. L'or, valeur refuge, bat des records. Le dollar américain, baisse d'1%. Haïti s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos. Les gangs continuent de grignoter de nouveaux territoires dans la capitale, Port-au-Prince. La population a voulu une nouvelle fois montrer son exaspération. Ce mercredi, plusieurs milliers de personnes sont sorties dans les rues pour manifester dans la capitale haïtienne contre l'insécurité. Ils se sont rendus jusqu'au siège des autorités haïtiennes avant d'être réprimés par la police. L'anxiété permanente due aux gangs concerne désormais la quasi-totalité de la ville. Diego Radrin, expert sécurité à l'international du Crisis Group, spécialiste de la région.
L'ONU estime que les gangs contrôlent actuellement plus ou moins 85% de la capitale. Il n'y a que quelques quartiers qui résistent encore aux attaques qui sont lancées par les gangs et qui sont contrôlés notamment par des brigades de vigilance et par les forces de sécurité, à savoir la police nationale ou les forces armées d'Haïti ou la mission multinationale qui est sur le terrain. Ce sont surtout des brigades de vigilance constituées par des civils, des résidents de ces quartiers qui s'arment et qui défendent leur quartier contre l'invasion de gangs et qui résistent les attaques des gangs pour protester contre ce qui est perçu comme l'inaction du gouvernement face à la montée en puissance des gangs et à l'intensification des attaques sur certains quartiers.
Propos recueillis par Anne Verdaguet. Au moins 85 morts au Soudan en une semaine au sud de Khartoum. Des morts imputées au groupe paramilitaire des forces de soutien rapide, les FSR, par le comité de résistance soudanais, groupe pro-démocratie. Les FSR ont été chassés par l'armée soudanaise de la capitale Khartoum depuis jeudi dernier, mais ils jurent qu'il n'y aura ni retraite ni reddition. Cessez-le-feu en Birmanie, décrété par la junte militaire au pouvoir. Le pays en guerre civile se remet difficilement du tremblement de terre de vendredi dernier. Le bilan tourne autour des 3000 morts, mais il n'est toujours pas définitif. Un deuil national est en vigueur jusqu'à dimanche. Des scènes chaotiques de distribution de l'aide humanitaire sont rapportées. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger, du Burkina Faso ont entamé ce mercredi une visite à Moscou, en Russie. Ils ont été invités par leur homologue russe, Sergueï Lavrov. Cette rencontre, dénommée première session des consultations de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, Russie ambitionne de renforcer les relations entre Moscou et ses trois pays dirigés par des militaires putschistes. Correspondance régionale, Serge Daniel.
Partenaires privilégiés de la Russie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso vont rappeler à Moscou que la sécurité au Sahel demeure leur principale priorité. D'après nos informations, dans les délégations sur place figurent des responsables à des questions de défense et de sécurité. L'hôte de la rencontre devrait à son tour rassurer les trois juntes membre de l'Alliance des États du Sahel. Que ce soit sous l'étiquette du groupe paramilitaire Wagner, sous une nouvelle dénomination, ou encore par le canal de la coopération officielle, la Russie entend renforcer ses liens avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces trois pays annoncent la création d'une alliance de défense collective. Pendant la visite de 48 heures en Russie, les problèmes économiques seront également sur la table de discussion. L'un des projets phares de l'Alliance des États du Sahel, AES, est la création d'une banque régionale d'investissement. Le partenariat avec Moscou sera demandé. Dans un autre domaine, celui de la diplomatie, les deux parties AES-Russie pourraient définir un cadre afin de parler sur le plan international d'une même voix sur plusieurs sujets. Serge Daniel, Dakar, RFI.
En France, la justice est indépendante, rappelle le président français Emmanuel Macron. Le chef de l'État se place en garant des institutions et protecteur des magistrats qui, je cite, doivent être protégés. Le pouvoir judiciaire en France fait l'objet de nombreuses attaques après la condamnation de la principale opposante d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est condamnée pour corruption à 5 ans d'inéligibilité. Il serait donc impossible pour Marine Le Pen de se représenter aux élections présidentielles françaises en 2027, mais un procès en appel est prévu pour l'été 2026. Nouvelle journée de mobilisation du collectif Stand for Science France, debout pour la science, ce jeudi. L'objectif est de dénoncer les attaques contre la science et la liberté académique à travers le monde, et notamment aux États-Unis. Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir il y a 3 mois, les scientifiques américains se sont vus interdire d'utiliser certains termes comme diversité ou climat. De nombreux financements sont aussi gelés. Nicolas Faguey, astrophysicien français vivant aux États-Unis depuis 17 ans, témoigne du climat actuel dans le secteur scientifique aux États-Unis.
Je pense qu'il n'y a qu'un seul mot pour décrire l'état d'esprit actuel, c'est la peur. Un lourd fardeau pèse sur nos épaules. Vers la fin du mois de janvier, je me souviens avoir contacté des personnes qui travaillent à la NASA et qui sont donc des employés fédéraux, et oui, ils avaient peur de perdre leur emploi. Des gens comme moi ont cessé de travailler sur certaines de ces activités qui sont désormais considérées comme illégales. Il y a aussi la peur d'être dénoncé par des collègues si l'on fait quelque chose qui est considéré comme hors la loi. Nous avons presque l'impression d'être espionnés. Tout ça n'est pas rationnel. Les autorités américaines ne se soucient pas de savoir si c'est important ou non pour le peuple américain. Quand ils bannissent des mots comme « femme » ou « diversité », ils le font aveuglément. Il n'y a aucune rationalité dans ce qu'ils font.
Le prix du chocolat va-t-il augmenter? En tout cas, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, augmente le prix d'achat aux planteurs de 22%, ce qui donne 2200 francs CFA le kilo, soit 3,35 euros. C'est l'État en Côte d'Ivoire qui fixe le prix d'achat du cacao, contrairement à d'autres pays comme le Cameroun, où le système est libéralisé. Moustiques, fièvre, maux de tête et courbatures, l'île française de la Réunion dans l'océan Indien est touché par une épidémie de chikungunya depuis quelques mois. 6000 nouveaux cas ont été recensés cette semaine, plus 40% par rapport à la semaine dernière. Pour le moment, pas de mort officiellement due au virus, mais des examens sont en cours sur des décès suspects. C'est bientôt la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Prochaine édition dans une cinquantaine de minutes. Je rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité mondiale sur notre site internet rfi.fr. Merci de m'avoir suivi.